À l'écoute de Radio France Internationale, 22h à Paris, 20h en temps universel.
Joël Burgel.
Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal en français facile. Pour le présenter avec moi ce soir, Victor Moria. Bonsoir Victor.
Bonsoir Joël, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, les dirigeants des pays du G7 s'entendent pour interdire progressivement les importations de pétrole russe. Pendant ce temps, dans l'est de l'Ukraine, il existe un sentiment pro-russe en cette période de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À suivre dans ce journal, le reportage de nos envoyés spéciaux sur place.
Au sommaire également, Israël est sur le point d'annoncer la construction de 4000 nouveaux logements pour les colonies juives en Cisjordanie occupée. De nouvelles maisons construites sans respecter le droit international.
Et puis, nous reparlerons de la victoire du parti indépendantiste, le Sinn Féin, c'est en Irlande du Nord.
Le journal en français facile.
Le G7 s'engage à ne plus acheter de pétrole russe. Les plus grandes puissances mondiales interdiront ou supprimeront progressivement les importations.
Oui, c'est ce qu'a annoncé la Maison Blanche alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine. La banlieue de Kiev a reçu aujourd'hui la visite du Premier ministre canadien. Justin Trudeau était à Irpine, dévasté par d'intenses combats.
Et ce dimanche 8 mai marque aussi les commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais le mal est de retour en Europe, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé dans une vidéo.
Et à la veille du grand défilé militaire organisé par Moscou ce lundi 9 mai, nos envoyés spéciaux, Anastasia Becchio et Boris Vichit, ont constaté dans l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire dans le Donbass, eh bien qu'il y avait des sentiments favorables à la Russie qui s'exprimaient.
À quelques pas du monument blanc à la mère patrie, entre la flamme du soldat inconnu et la stèle à la gloire des héros de la Seconde Guerre mondiale, une dame promène son chien. Le monument, généralement fleuri en cette période de l'année, est désert.
Pour moi, c'est une grande fête parce que mes grands-pères, mes grands-mères et même mes parents y ont pris part. Pour la plupart des gens en Ukraine, c'est une grande fête. Ces dernières années, il y a eu tendance à célébrer le 8 et pas le 9. Mais en des temps plus calmes, on a toujours eu beaucoup de personnes qui venaient fleurir le monument ici. Mais là, il reste quasiment plus personne à Kramatorsk.
Людмила, 73 ans, qui se remet d'une opération à l'hôpital de Kramatorsk, n'a jamais accepté le fait que les autorités ukrainiennes aient déplacé la date de la victoire de l'URSS au 8 mai.
Pourquoi ont-ils déplacé cette fête? C'est notre histoire. Les gens se sont battus, sont morts. Mon arrière-grand-père, mon grand-père sont morts. Pourquoi?
Même tonalité du côté de Viktor Nikolaevich, 80 ans, qui s'accommoderait de l'arrivée des Russes dans sa ville.
Je n'ai pas peur. Je suis moi-même russe. J'ai prêté serment à l'URSS quand j'ai fait mon service et je ne crois pas que ce soit les Russes qui nous bombardent. C'est du mensonge.
Selon le maire de la ville, si environ un tiers de ses administrés étaient pro-russes il y a 8 ans, il ne serait aujourd'hui plus que 5%. Anastasia Becchio, Boris Vichit, Kramatorsk, RFI.
Pour ce qui est des sanctions occidentales qui visent la Russie, Washington a annoncé tout à l'heure de nouvelles mesures visant notamment les 3 chaînes de télévision russes.
Les forces ukrainiennes dans l'immense usine d'Azovstal refusent de se rendre. Les soldats présents dans la dernière poche de résistance de Mariupol estiment que capituler n'est pas une possibilité.
Des militaires ukrainiens ont tenu ce dimanche une conférence de presse. Désormais, il ne reste plus que des hommes dans l'usine d'Azovstal. Les femmes, les enfants et les personnes âgées ont en effet été évacuées ces derniers jours. Les autorités craignent en attendant une attaque encore plus violente de l'armée russe. Le lieutenant Ilya Samoïlenko du régiment Azov a expliqué qu'il avait reçu l'ordre de rester et de résister.
Le 28 avril, l'un de nos soldats a été capturé lors de combats. Il était avec un groupe d'autres combattants dans la ville. Il était inconscient et les troupes russes l'ont emmené. La propagande russe a ensuite posté une vidéo assurant que les militaires ukrainiens étaient en train de se rendre, de déposer les armes. L'un des hommes capturés avait un tatouage très reconnaissable sur la poitrine, juste un tatouage à l'ancienne. Et quelques jours plus tard, peut-être 4 ou 5 jours, sa mère a reçu un message de son téléphone portable avec des photos de cet homme, mort, étouffé. Vous voyez, les Russes ont d'abord montré qu'ils avaient capturé ce gars. Ils répètent, n'ayez pas peur, rendez les armes et tout ira bien. Nous sommes humains, nous vous donnerons de la nourriture, de l'eau, des vêtements chauds. Et en fait, ils les tuent. Ils tuent les prisonniers de guerre.
Et par ailleurs, Kiev annonce ce soir que 60 personnes sont portées disparues dans la région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, et cela après le bombardement d'une école.
Le journal en français facile.
Israël est sur le point de réunir un comité pour annoncer la construction de 4000 nouveaux logements pour les colonies juives en Cisjordanie occupée.
De nouvelles maisons construites sans respecter le droit international. Et si le plan est approuvé, il serait la plus grande avancée en matière de colonisation depuis l'entrée en fonction du président américain Joe Biden, qui s'oppose à la croissance des colonies. Pour les Palestiniens, c'est un affront supplémentaire. Correspondance Alice Froussard.
Ces plans de construction sont une violation flagrante du droit international et des conventions de Genève, un coup d'État contre les accords signés. C'est ce qu'a précisé ce samedi le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué. Pour ce dernier, ces nouvelles constructions israéliennes ne font, je cite, qu'attiser les tensions, saper la confiance ainsi que la viabilité d'une solution à deux États. Le ministère des Affaires étrangères parle également d'un défi flagrant pour les États-Unis et la communauté internationale, car ce projet de construction de 4000 nouvelles maisons pour les colonies pourrait nécessiter la démolition de 12 villages à Massafariata dans les collines au sud d'Hébron et la saisie de près de 5500 acres de terre, soit près de 2225 hectares dans la vallée du Jourdain. Annoncé vendredi par les Israéliens, ce projet a été critiqué par le département d'État américain qui y voit des mesures unilatérales qui exacerbent les tensions. Mais ces mots sont insuffisants, je cite, selon les Palestiniens. Il ne s'élève pas au niveau des crimes de construction des colonies, a déclaré le ministère. Alice Froussard, Ramallah, RFI.
C'est une visite rare, celle du président syrien en Iran.
Bachar al-Assad a rencontré ce dimanche le guide suprême Ali Khamenei à Téhéran, mais aussi le président iranien Ebrahim Raisi.
La télévision iranienne en a fait l'annonce. La dernière visite de Bachar al-Assad dans le pays datait de février 2019.
Oui, l'Iran soutient financièrement le régime syrien alors que le pays est ravagé par la guerre depuis plus de 10 ans.
En Europe, reparlons à présent de la victoire historique des indépendantistes en Irlande du Nord.
Le parti Sinn Féin a remporté les élections locales. Pour rappel, ce parti est en faveur de la réunification avec le reste de l'Irlande.
Ce succès est une première dans le pays. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir trouver un terrain d'entente avec le parti d'opposition.
Oui, avec le DUP proche de la Grande-Bretagne à Londres, Marie Boueda.
Dominic Raab, le vice-premier ministre du Royaume-Uni, a fait part de son inquiétude aujourd'hui sur la chaîne Sky News. Pour le gouvernement britannique, ce résultat n'est pas une bonne nouvelle.
Nous voulons que les partis s'unissent pour apporter de la stabilité aux habitants de l'Irlande du Nord. Le protocole nord-irlandais met en péril cet équilibre. S'il avait été mis en œuvre avec bonne volonté et pas utilisé comme un instrument politique, nous n'en serions pas là. C'est trop tard, mais nous devons réparer la situation. Le gouvernement s'est engagé à le faire, mais nous n'aurons pas une stabilité politique après les résultats des élections en Irlande du Nord.
Une frontière maritime avait été convenue à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne afin d'éviter de raviver les tensions entre les deux Irlandes. Mais le gouvernement de Boris Johnson veut renégocier ce protocole et il ne sera pas soutenu par le Sinn Féin. Le parti qui a récolté le plus de voix veut à terme que l'Irlande du Nord et la République d'Irlande deviennent un seul pays. Pour cela, il faudra quitter le Royaume-Uni. Une membre du parti a annoncé qu'un référendum sur l'unité de l'Irlande pouvait arriver dans un délai de 5 ans. Un nouveau caillou dans la chaussure du gouvernement conservateur, il vient déjà d'essuyer un revers en Grande-Bretagne à la suite des élections locales. Marie Boueda, Londres, RFI.
C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde.